Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le 24 février 2019 et vous écoutez le débrief du jour 3 du Festival International des Jeux de Cannes. Dernier jour. Je suis Cyrus et je suis accompagné pour ce dernier débrief de l'INRIA, toujours fidèle au poste.
Toujours, salut.
Salut l'INRIA. Et d'Astien également. Salut Astien.
Salut Cyrus.
Et on a été rejoint aujourd'hui par Iso Bretnik. Salut Iso.
Salut.
Mais qu'est-ce que tu fais là ?
Miracle de la magie.
Ouais. Et parce que tu n'habites pas au Japon normalement ?
Bah, normalement j'habite au Japon et puis soudainement je suis arrivé ici. Non mais j'ai premier Cannes, ça va être.
Ouais, de l'argent à Proxyjeux, la téléportation.
Oui, c'est ça. Donc merci à tous les tipeurs, hein, il faut le dire.
Hein. Ouais, parce que le billet d'avion, ça nous a coûté une blinde. Hein. Bah, on est content de t'avoir au micro, puis de, parce que bon, on n'a pas l'occasion de te voir souvent, quand même, il faut bien l'avouer.
Oui.
Ce dernier jour, qui a été pas mal rempli, hein, bah, l'INRIA et moi, on était d'interview, donc du coup, on n'a pas joué cet après-midi, en tout cas.
Non.
Enfin, si, du coup, t'as fait voir. Il y a eu une espèce de switch mix, machin, donc du coup.
Non, je n'ai pas joué cet après-midi.
Ah non, ok, pardon.
J'ai erré dans les allées pour voir un petit peu ce qui se faisait parce que j'avais pas vraiment pris le temps et là, il y avait moins de monde. Alors, du coup, ça m'a permis de voir les tables de dispo, de regarder le matériel du jeu que j'avais pas pu voir parce qu'il y avait beaucoup trop de monde autour. Donc, j'ai fait mon petit tour, quoi.
Ma touriste. Fait une petite balade sur le dernier tour.
Oui, exactement.
Et puis, Bastien, toi, t'as...
J'étais aussi d'interview aujourd'hui, donc j'ai fait un jeu aujourd'hui. J'avoue que, pareil, j'ai plus serré la fatigue du quatrième jour.
C'est ça.
J'ai pas osé me lancer dans un gros jeu qui sont nombreux, auxquels je n'ai pas pu jouer pendant le festival, donc voilà.
Ouais. Et toi, Iso Bretnik ?
Alors, j'ai joué à quelques petits jeux.
Ouais.
J'ai évité les jeux un peu trop... Ambitieux.
Ambitieux pour la dernière journée.
Les jeux à une heure et demie. Oui.
Quand on a déjà fait des nuits assez courtes, enquillées les unes derrière les autres. Du coup, bah, tout ça pour vous dire qu'on ne va pas vous donner forcément un ressenti sur l'ambiance du festival d'aujourd'hui, parce que du coup, on serait pas forcément très fidèles. En revanche, on va faire un petit encart. Astien va nous faire un petit encart sur l'AG qui a eu lieu hier. Réseau des cafés ludiques.
L'AG du réseau des cafés ludiques qui avait lieu samedi après-midi. C'est pour ça aussi que j'étais pas là au débrief de hier soir. J'étais à cette fameuse AG.
Tu fais partie de la triche.
Voilà, moi je m'en fous, je triche. Le bar associatif à Lyon et donc qui est présent au sein du réseau des cafés ludiques, représenté par divers membres de notre association.
Ouais.
J'en fais partie justement et voilà, et du coup on essaie de via le réseau de proposer des solutions d'accompagnement aux porteurs de projets pour les bars à jeux qui veulent se lancer et essayer de parler de problématiques qui sont en commun sur tous ces bars à jeux, qu'on soit associatif, qu'on soit des entreprises et divers types d'entreprises justement. Voilà, on a toujours des problématiques qui se recoupent, que ce soit par exemple avec les relations distributeurs-éditeurs. Ça va plus être compliqué que des boutiques qui, eux, ont une relation commerciale. Nous, on ne cherche pas à faire du commerce avec tout ça. Voilà, on cherche à faire de l'événementiel. Mmh. Et du coup, ben, c'est un type de relation différente. Et les gens qui se lancent ne connaissent pas forcément tout ça. Et donc là, l'AG, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup de membres qui nous ont rejoints cette année. On est monté à 32 membres au niveau du réseau des cafés. C'est 30% d'évolution comparé à l'année dernière. On sait qu'il y a beaucoup de cafés qui vont encore ouvrir cette année. On n'a pas encore de café présent dans la région parisienne. On verra si cette année sera plus propice à ça. Mais on est en contact avec ceux qui sont déjà présents. Voilà, et puis même on a une forte demande des cafés qui sont aussi boutiques, qui sont aussi escape game, qui sont voilà, des cafés qui sont vraiment hybrides dans leur approche avec une ouverture à d'autres choses. Qui sont vraiment dans une envie forte de nous rejoindre parce qu'ils rencontrent aussi des problématiques sur de l'événementiel qu'on rencontre. Et voilà, on pourrait essayer de se recouper là-dessus.
Ouais.
Donc il y a des réflexions qui se portent
là-dessus.
Vous
pourriez quand même revoir du coup les conditions d'entrée du coup au réseau des cafés ludiques parce qu'aujourd'hui ça exclut après tout ça.
Aujourd'hui, ça exclut ce type de bar-là, on va dire. Il y a un titre de membre honorifique qui a été donné à quelques cafés qui ont des. Justement des des approches alternatives et de boutique, mais il n'y a pas un vrai statut, ils ne sont pas reconnus en tant que membres du réseau.
Ils ne peuvent pas voter, quoi.
Non, aucun droit de vote.
Voilà, c'est ça. Ils peuvent assister, faire partie quand même finalement de... avoir les informations, tout ça, j'imagine. Mais...
Tout à fait, voilà. Et, mais dans le strict minimum de, par exemple, de porteurs de projets qui ne sont pas encore membres du réseau, mais qui s'intéressent au réseau. Quoi.
D'accord.
Donc aujourd'hui, il y a une réflexion sur comment accompagner ces cafés alternatifs, justement, sur l'intégration dans le réseau. Quoi.
D'accord, ok. Donc ça, c'est un des gros sujets, j'imagine, du coup.
Ouais, c'est un sujet qui revient
de l'AG.
Depuis deux ans, là.
Ça sent un peu l'arlésienne, quand même, comme genre de sujet. Quoi.
Ouais, mais parce que c'est important. Je comprends qu'il y en ait qui se reconnaissent aussi dans ce qu'on fait et que nous, on les reconnaisse aussi, mais qu'aujourd'hui, on ne les intègre pas parce qu'on n'est pas encore assez stable dans ce qu'on veut mener, dans toutes les directions qu'on a à prendre. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on va être sollicité, sur lesquels on a envie de se projeter. Mmh. Et c'est compliqué de se dire qu'en même temps, on va intégrer d'autres cafés qui ont d'autres approches. Ouais. Et puis aller vers des festivals, aller vers des partenariats. L'année dernière, on a eu le partenariat avec Accessi-Jeux. Ouais. Donc en gros, on a eu 25 cafés, si je me souviens bien, à avoir eu un kit d'accessibilité pour les personnes malvoyantes. Mmh. Donc du coup, qu'on fournit dans nos cafés pour accueillir ce type de public. Et on essaie de mettre des actions comme ça en place. Ça demande du temps, ça demande pas mal d'investissement. Et du coup, on n'est pas non plus 5000.
Ouais.
Et il faut arriver à faire les choses bien. Donc on est pris des fois par le temps sur toutes ces actions-là. Quoi. Dans le réseau des cafés aujourd'hui, c'est le CA qui s'occupe de tout. Donc, 9 représentants de 9 cafés qui s'occupent de quasiment toute la gestion du réseau des cafés. Ouais. Et ça devient une charge beaucoup trop importante avec la montée en charge du réseau.
Le nombre croissant.
Voilà, de bars qui nous rejoint. Ouais. Et du coup, il y a une envie et il y a eu des votes pour lancer des commissions de travail,
d'accord,
on va dire.
Okay.
Sur des sujets divers, justement. Mais par exemple, faire peut-être... des activités aux fiches de l'année prochaine avec des conférences, faire des week-ends où on peut se retrouver entre cafés associatifs, animés justement avec des ateliers où on pourra discuter de nos problématiques, échanger sur tout ça.
Les noms des comités ont déjà été sortis, les thèmes ?
Ouais, il y a quelques thèmes, justement, ce que je viens de te citer. Il y a une envie de s'investir plus dans la communication et dans le site web, par exemple, qui est aujourd'hui une page où il y a marqué que c'est en travail en cours.
c'est un petit peu léger.
C'est dans les tuyaux, mais comme c'est associatif, il faut donner de son temps. Et c'est pas forcément évident quand on a tous un travail à côté. Plus des assos aussi à gérer potentiellement. Du coup, cette année, on a Mathieu Bonin qui a décidé de se retirer de la fin de l'ours et qui a été élu président honorifique au même titre que Nadine Seul du réseau des cafés ludiques.
D'accord, ok.
Voilà, par leur engagement et ce qu'ils ont pu apporter à la création du réseau des cafés.
D'accord.
Donc voilà, ils font plus partie, enfin Mathieu et Nadine qui a pu permettre ces réunions au sein du réseau, ne font plus partie du réseau sont quand même président honorifique.
Nadine seule ne faisait pas partie
du réseau, mais elle a engagé des possibilités pour qu'il y ait des rencontres via le fiche tout simplement, avec la mise à disposition de salles, la mise à disposition d'endroits pour se faire des réunions, la connexion entre les différents cafés, le bar du off. Ça a permis vraiment une connexion dans tous ces bars qui a fait qu'aujourd'hui il y a un réseau des cafés qui s'est monté, quoi.
Oui, bien sûr, j'entends. Et donc et Mathieu Bonin, donc qui était effectivement administrateur à la Triche.
Voilà.
À la fin de l'ours. Il a été.
Oui, il a été président à la Triche avant.
Ah, donc il était encore récemment administrateur à la fin de l'ours à Nancy.
Tout à fait.
Et du coup, maintenant qu'il ne l'est plus, mais du coup, vous l'avez attribué ce titre. Très bien. D'accord, c'est très clair. Et ben, merci pour ces infos. Je propose qu'on passe à la partie qui concerne les jeux. On a pu quand même essayer soit aujourd'hui, soit dernièrement, et donc sur lesquels on a envie de faire un petit retour. Alors, on commence peut-être par une extension avant de commencer par des trucs un peu plus consistants, entre guillemets.
Ce n'est pas moi qui vais vous en parler en plus.
C'est vrai.
Oui, Astien qui tient, on le rappelle, la chronique Les petites boîtes dans les grandes, qui est consacrée aux extensions. Et ben non, c'est Linrea qui va nous en parler.
Oui, l'extension de Dice Forge, donc qui est sortie vendredi, enfin, est sortie
pour Cannes.
Pour Cannes, voilà, qui s'appelle Rebellion, qui comprend en fait deux extensions en une avec des pléthores de cartes en plus qu'on peut jouer dans le jeu de base. Je précise que j'ai joué qu'à un seul module des deux parce que les tables étaient prises d'assaut. Mmh. Voilà, on a campé devant pour pouvoir y jouer.
Et les deux étaient présentés quand même, les deux modules.
Les deux modules étaient présentés. Ouais. Il y avait deux tables du module avec les titans et deux tables du module avec la déesse. J'ai joué au module de la déesse, donc en fait où il y a un petit labyrinthe. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va beaucoup en parler dans l'interview de Maximilien pour Libellude. Pour moi, c'est une extension très réussie dans le sens où elle corrige tout ce qu'on a pu reprocher en fait au jeu de base, c'est-à-dire qu'on retrouve de l'interaction, on est moins frustré par ce nombre de tours parce que vraiment 9 ou 10 tours, c'est très frustrant pour ceux qui connaissent Dice Forge. Parce qu'on peut, y a des cartes qui nous permettent de rejouer un tour complet ou qui nous permettent de relancer un autre dé. Enfin, il y a vraiment d'autres petites subtilités qui rentrent en jeu. Et donc, cette piste de la déesse du petit labyrinthe qu'on peut avancer. Donc, franchement, pour moi, c'est une belle réussite. Je pense que ça va devenir l'extension indispensable à Dice Forge vraiment pour corriger toutes ces petites erreurs. Enfin, c'est pas forcément des erreurs, mais c'est des choses que les joueurs ont beaucoup reprochées au jeu. Notamment là on va pouvoir se voler des ressources, donc ça rajoute un peu d'interaction, du coup ça pourra corriger aussi le fait qu'on fait des mauvais lancers de dés parce que c'est un peu ma spécialité, moi ça m'empêche pas d'aimer le jeu. Et j'ai complètement perdu la partie que j'ai faite et pourtant j'ai quand même apprécié, donc comme quoi ça rentre pas forcément en compte.
Mais j'en parlerai sûrement dans la chronique dans pas longtemps. J'ai acheté l'extension, j'ai pas eu l'occasion de la tester.
Ok, aura peut-être un détail bientôt alors dans la chronique.
Ouais, je vais essayer de décortiquer un peu.
Ouais.
Ça suffit le placement de produit, ça fait quand même deux fois dans le même débat.
Ouais,
là, quand même.
Ouais, mais il y a les nôtres d'ailleurs, pourquoi on n'en parle pas.
Ok, donc ça c'était Dice Forge, donc l'extension Dice Forge pour Dice Forge, toujours Régis Bonnecé. Ensuite, je peux vous parler rapidement de Villainous, qui est un jeu qui est sorti sur Kickstarter qui va avoir une localisation via Ravensburger. Donc, c'est un jeu, Villainous, c'est sur les méchants de Disney, du coup avec la licence de Disney. Le jeu respecte. Alors, c'est un jeu complètement asymétrique, déjà pour commencer. Donc, on va tous incarner un méchant de Disney différent avec un objectif complètement différent. En gros, on va faire des actions sur son plateau en changeant de lieu. En fonction du lieu, il y a des actions différentes. Et puis, on a un deck donc, de cartes qui sont nos cartes qu'on va jouer. Voilà. Et il y a un deck de gentils, donc les gentils de l'histoire, qui vont venir nous embêter et tenter de nous mettre des bâtons dans les roues. Et ce deck-là, en fait, c'est les autres joueurs qui vont venir piocher des cartes dedans et nous les balancer dans la tronche. Donc il faut accepter que des fois on puisse s'acharner sur quelqu'un.
Ça sent le vécu autour de la table.
On a joué à 4, il y avait des doubles, enfin comment dire, il y avait des binômes de méchanceté, des binômes ou plutôt de gentillesse du coup, parce que ce sont les paquets gentils qu'on s'envoyait dans la tronche.
C'est toujours très gentil quand on se met sur la gueule dans les jeux, souvent, on va remarquer.
Oui, mais là, c'est des gentils. C'est ça. Enfin, bref. Le jeu est très joli en plus. Ils ont mis des petites figurines en plastique pour chaque. Qui sont stylisées.
Et translucides aussi.
Personnage, ouais. C'est très thématique puisque ça reprend les images de l'histoire, ça reprend des éléments de contexte de l'histoire. Après, la crainte qu'on avait éventuellement, c'est est-ce que quand on a fait une fois un personnage, on a joué une fois un personnage, est-ce qu'on a encore envie de le rejouer parce qu'on, du coup, on a déjà fait son histoire, entre guillemets.
Il n'y a pas d'autres objectifs de disponibles, c'est ça?
Non, surtout une recherche d'optimiser ce personnage.
Ouais, c'est ça, en fait, voilà. Donc, du coup, après, il y a 6 personnages dans la boîte. Donc, déjà, il faut déjà faire les 6. Alors, c'est sûr, la première fois, tu vas le découvrir. Donc, du coup, tu vas vouloir découvrir aussi les autres. Tu vas vouloir rejouer aussi les personnages, du coup, peut-être pour optimiser un peu. Donc, comme on échangeait un peu sur Twitter, parce qu'on a fait cette remarque, du coup, on s'est posé la question. Voilà. Et là, on nous disait, au final, quand même, tu vois, déjà, là, tu as fait 12 parties. Donc, c'est déjà finalement pas si mal aujourd'hui. Bon.
Il y a 2 extensions qui vont sortir mois à venir aux États-Unis. Donc, avec 3 personnages dans chaque extension. Oui, oui.
J'ai regardé ça. Il fait encore sa pub.
Et ça devrait sortir, incroyable, du coup, oui, normalement, pour Cannes 2020 en France, à ce que j'ai compris.
Ouais, on revient l'année prochaine, du coup.
Je ne sais pas la date de sortie là, du coup, de Villainous chez Ravensburger.
Pour septembre, normalement, si je ne dis pas de bêtises.
Et ce qui est, d'ailleurs, c'est étonnant parce que je ne crois pas qu'ils soient habitués à faire des localisations Ravensburger.
Ouais, mais c'est un jeu Disney.
Mais après, Ravensburger a l'air de s'engager sur des chemins qu'il n'a pas encore fait. L'année dernière, on l'a vu avec un jeu style Legacy.
Oui, des Brandt.
Ouais, j'avais plus le nom, ouais. Mais du coup, ils ont l'air de s'engager sur d'autres chemins que du jeu plus classique sur lesquels on a l'habitude de les retrouver. Donc, c'est intéressant.
Bah ouais,
à voir ce que ça va donner.
On va voir ça. Villainous, c'est un jeu de Prospero Hall. Alors, Prospero Hall, c'est... D'accord. Vas-y, je te laisse.
Oui, je pense à un jeu auquel...
Prospero Hall, en fait, c'est un collectif d'auteurs. Enfin, c'est un...
C'est une société. Je sais pas si c'est lui, mais.
C'est un groupe d'auteurs. C'est une espèce d'entreprise de je sais pas de quoi. Ils sont 30 dedans. Enfin, c'est un truc de dingue. Et ils ont fait aussi Kero.
Ouais, chez Hurricane.
Ah, d'accord. Ouais. Voilà. Donc, il fallait sûrement tout ce monde-là pour faire ça. C'est hyper dur à régler, quoi. Un jeu comme ça, aussi asymétrique.
Et puis, un jeu asymétrique. Avec chaque vraiment personnage là autour de la table qui a sa mécanique et qui reste familial, je pense que c'est pas aussi facile que ça, quoi. Les jeux asymétriques en général, on les retrouve sur du jeu expert.
Ouais. Alors c'est pas familial non plus. Je sais pas quel âge ils vont donner d'ailleurs, mais ils disent 10 ans sur BGG. Voilà.
D'accord.
Donc voilà. Donc ça c'était Villainous à venir donc en septembre chez Ravensburger. Donc Isobretnik, tu voulais nous parler de Chakra ?
Alors oui, Chakra, j'y ai joué à 4 joueurs. C'est un jeu qui est sorti chez Blam. La première chose qui nous a attiré, c'est les illustrations, parce que c'est vraiment d'une beauté renversante. Ça m'a d'ailleurs évoqué une illustratrice qui s'appelle Rebecca D'Outremer. Alors je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait quand même des rapprochements à faire au niveau des illustrations. Ça m'a fait penser à ça tout de suite, qui illustre beaucoup, beaucoup de livres pour les enfants. Et le thème est assez particulier, c'est quelque chose que j'avais jamais vu, ça a doublé mon engouement pour essayer le jeu. Et j'ai trouvé le jeu donc très très beau, avec un thème complètement original, et j'ai trouvé que les mécanismes du jeu étaient vraiment, vraiment intéressants. Il y a pas mal d'optimisation. Donc je ne vais pas expliquer les principes complètement, mais disons qu'on score à partir du moment où on réussit à déplacer des gemmes. Je sors un peu vite du thème. Mais...
On fait circuler les énergies dans les chakras.
Justement. Oui, voilà. Oui, c'est tout un vocabulaire qui m'est inconnu. Donc, j'avais 40 ans en fait à nettoyer au niveau des chakras. Mais je trouve que l'optimisation, juste avec ce système de mouvement où chaque mouvement avec un nombre de déplacements différents est limité à une utilisation avant de passer, c'était vraiment quelque chose qui était qui est vraiment très maligne. La seule chose que je pourrais reprocher éventuellement, et encore c'est difficile parce que a priori on a joué une partie où la fin de partie était accélérée par rapport aux parties habituelles, celles qui sont indiquées dans les règles en tout cas. Et j'ai quand même l'impression que ça a peut-être un peu déséquilibré les scores en fin de partie, dans la mesure où chaque couleur d'énergie, donc, et non pas de gemmes en plastique, apporte un nombre de victoires qui est différent, qui va de 1 à 4, et ces points de victoire sont cachés. Donc, à moins de passer à un moment de la partie, on ne peut pas aller vérifier combien de points valent chaque couleur d'énergie. Et du coup, on s'est retrouvé dans une situation où on essaye de lire les autres. On se dit, bon, si cette personne investit beaucoup dans cette couleur, c'est qu'a priori, ça ramène des points. Coup de malchance, la personne qui m'a inspiré pour cette partie a investi toute son énergie d'optimisation dans une couleur d'énergie qui valait un point sur les quatre. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec un score assez ridicule. Mais disons que j'étais satisfait de l'optimisation que j'avais réussi à fournir, mais je me suis retrouvé avec un score qui était relativement bas par rapport à la performance de mes adversaires, qui était quasiment, on a quasiment tous terminé en fait en remplissant quatre couleurs différentes, Alors que dans la règle originale, il me semble que c'est 5.
5, oui.
J'ai très envie d'y rejouer et de faire une vraie partie complète. J'imagine que le stand était plein, on a attendu 40 minutes pour pouvoir y jouer et du coup, moi j'ai eu le temps de lire les règles sans problème, on a pu s'expliquer les règles entre nous avant même de commencer à jouer. Et du coup, j'aimerais vraiment voir ce que donne le jeu avec une vraie partie, quoi, parce que je pense que ça change pas mal la donne. Donc c'est difficile de faire un jugement qui pourrait paraître un peu hâtif là pour le coup. Donc je vais juste m'arrêter là et puis répéter que j'ai trouvé les illustrations complètement incroyables. Mais...
Oui, c'était vraiment très très beau. Après, chez Blam, on est habitué quand même du beau travail en termes d'illustration et de qualité de visuel. Hein. Celestia, il est quand même déjà très très
beau.
Oui,
c'est vrai quand même. Sur ça, on est d'accord. Hein, ouais.
Donc, par exemple, quoi.
Par exemple. Donc, Chakra, c'est un jeu de Luca Cresa et illustré par Claire Conan.
On est content que tu l'aies dit, tiens.
Oui. Je pense que je ne suis pas trop mal sorti. Je ne voudrais pas m'envoyer des fleurs, mais je suis peut-être pas très loin.
Bon, ben, on est content que tu l'aies dit.
Non, mais il y a un talent d'anticipation dans cette émission.
Qui nous parle maintenant de Nagaraja? Ce serait pas Astien par hasard? Non, c'est pas une extension, pardon. Donc,
Ah non, je peux pas parler.
Du coup, non.
Donc Nagaraja, du coup, chez Hurricane, c'est bien ça?
Oui.
Oui, c'est
ça.
Jeu de Théo Rivière et
Bruno Catala.
Bruno Catala.
Oui. Un illustre inconnu.
Ouais, je sais pas trop qui c'est. du coup. Quand on le voit comme ça sur la table, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et en fait, on voit tous ces petits bâtonnets là, de couleurs. Donc, il y a trois tailles de bâtonnets, en fait. Donc, des tout petits verts, des bâtonnets moyens blancs et des grands bâtonnets marrons. Et en fait, tu vas retrouver des points et des nagas, ce qu'ils appellent des nagas, en gros, des espèces de serpents dessinés sur une face de la bâtonnette. Du bâtonnet. Et en gros, on va se retrouver à jeter ses bâtonnets pour essayer d'avoir une majorité de points pour gagner la tuile qui est au milieu, parce qu'en fait, on va explorer un temple avec des tuiles de couloir qui sont aux enchères au milieu. Et il va falloir essayer de faire 25 points de victoire. Et en fait, on se rend compte...
En allant chercher les trésors.
En allant chercher les trésors autour du plateau. Et on se rend compte qu'en fait, cet aspect-là, ça va juste annoncer la fin de partie parce que tout le jeu, tout le sel du jeu se joue en fait dans les cartes qu'on a en main. Ça va être vraiment un jeu de gestion de main avec un choix assez cornélien entre choisir d'utiliser ces cartes pour prendre des bâtonnets et pouvoir avoir la majorité sur le plateau et récupérer cette fameuse tuile ou pouvoir garder ces cartes pour les utiliser contre des pouvoirs qui vont pourrir un peu le jeu de l'adversaire ou nous avancer sur notre plateau et faire découvrir des trésors beaucoup plus intéressants assez rapidement pour finir la partie avant l'adversaire. Donc c'est vraiment un jeu de gestion de main et de combat tactique avec son adversaire, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est un jeu de joueurs.
Oui. Ouais. Mmh.
C'est un jeu assez atypique, je trouve, dans le mécanisme, tout ça, il y a un feeling assez atypique. C'est vrai qu'on a du mal à dire mettre une mécanique dessus, mais effectivement, oui, il y a de la gestion de main. Quoi.
Du coup, j'ai trouvé les sensations très, très intéressantes et très tendues, parce que même si c'est nous qui avons remporté la manche, en fait, on se retrouve avec un côté négatif sur la manche suivante,
on a moins de cartes. Voilà. Constant, hein.
Et du coup, c'est tout le temps très tendu, il faut savoir être patient et pas être trop gourmand à aller chercher cette tuile absolument, attendre peut-être un ou deux tours pour pouvoir en mettre plein la gueule à notre adversaire et ne pas en perdre trop derrière, ne pas perdre trop son avancée derrière. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant sur cette gestion de main assez tactique.
Ok. Ouais. Donc on l'a dit, un jeu de Théo Rivière et Bruno Catala et c'est illustré par Vincent Dutray.
Oui.
Ensuite, on va parler de Push 'Em Up avec Iso.
Oui, Push 'Em Up qui est un petit jeu de cartes. C'est là, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'auteur est Alexandre Droit et c'est illustré par Stéphane Escapa. Et la thématique des super-héros avec des transformations, des jeux de mots, c'est vraiment très très drôle à la première partie. Les illustrations sont aussi très réussies. Et le principe du jeu est très malin, c'est un jeu de pose de cartes où on va essayer de choper des majorités. Sauf que là où l'intérêt du jeu est vraiment... l'intérêt du jeu est vraiment intéressant, la phrase la plus lourde du monde. pardon, je suis désolé. Là où le jeu prend tout son sens, en fait, c'est dans la façon dont on va utiliser les cartes push, donc évoque le titre, qui vont permettre en fait de recouvrir une partie des cartes qui ont été jouées dans, sur les bases des adversaires ou sur nos bases. Et du coup, on va jouer toute sa main, quasiment toute sa main de cartes, enfin tout son deck de cartes, et dès qu'un joueur a terminé son deck, on va vérifier qui a les majorités, gagner un certain nombre de points. Et c'est une mécanique très simple, ça se joue avec des enfants assez jeunes, je pense que 6-7 ans, ça devrait être carrément jouable. Et une très très belle édition, je trouve. Petite boîte, super travail d'illustration avec plein de personnages différents et vraiment une réinvention des super-héros à la Marvel qui est, comment dire, je sais pas, ils ont réussi à éviter la copie, ouais. en rendant la chose vraiment plus, beaucoup plus amusante. Et c'est un bel hommage, je pense, ouais, ouais. Humoristique pour le coup, mais il y a pas d'humour très, l'humour n'est pas lourd, c'est subtil et c'est malin.
Beaucoup de jeux de mots, ouais, j'ai trouvé ça très rigolo.
Ouais, c'est ça.
Okay. Donc ça, c'est un jeu d'Alexandre Audroy, c'est illustré effectivement par Stéphane Escapa et c'est chez Banana Smile. C'est un nouvel éditeur.
Oui, que je connaissais pas, c'est-à-dire que je découvrais un jeu de cet éditeur.
Qu'on a reçu en interview cette semaine.
Éditeur de la secte lyonnaise, au passage.
Encore eux, ils sont partout.
Ah, tu le reconnais, n'est-ce pas, toi aussi? Voilà. Et puis, on va finir sur un petit clin d'œil humoristique, peut-être, je ne sais pas.
Je ne sais pas si c'est très drôle. Moi, je n'ai pas trouvé ça drôle.
En tout cas, on a rigolé. On a joué Iso Britnik hier soir.
Ah, moi, j'ai pas joué.
Je
refuse de prendre la moindre responsabilité.
Tu refuses de prendre ses dés dans tes mains.
Dans cette partie qui m'a profondément ému. Hein.
Disons que c'est le jeu What the fuck du off.
Ah ouais, non, mais c'était. What the fuck, c'est encore une expression très timorée, je trouve, par rapport à.
Je pense ouais, que quand même, nous sommes à la radio, nous sommes écoutés par.
Il fallait y aller avec une petite bière à la main, parce que
sinon. Ouais, le seul, t'es sûr, parce que je pense qu'il en fallait au moins trois.
J'ai pas dit combien t'en avais pris dans le nez avant. Hein,
mais je pense qu'il fallait ça. Carrément le wagon de bière qui traversait le off. Quoi,
et donc, après tout ce teasing, il s'agit de King Size.
Alors, je te laisse faire le pitch, parce que je pense que tu es prêt pour ça.
T'es sympa, toi. Tu dis, je veux
alors, je vais faire la première partie du pitch et je vais te laisser faire la suite. Alors, la première partie du pitch, c'est très simple. Vous lancez des dés et vous avez deux choix qui sont un peu. Qui sont pas vraiment des choix puisque c'est un lancer de dés. Donc, vous avez le choix entre l'amour.
Oui.
Et je laisse Cyrus terminer.
Oh ouais, tu me laisses passer là. C'est super sympa, quoi.
Ah, mais non.
Eh bien, on a le choix entre retrouver l'amour ou avoir une grosse bite. Voilà. Donc,
le mot est lâché.
Voilà.
Voilà. Et après ça, il dit qu'il y a des enfants qui nous écoutent. Hein. Merci. Bah ouais.
Ouais. Alors, je sais que depuis quelques temps, on parle pas mal de jeux qui font, sinon polémiques, en tout cas, qui sont d'un goût assez limite, voire limite.
Pour ne pas citer le nom d'un jeu.
Ah, pardon. On m'a dit pas de publicité, j'ai oublié. Moi, j'ai trouvé que c'était une aberration en termes de thématique. Ça n'engage que moi. Et pourtant, je ne vis pas dans le pays
moi,
aux avancées
joué,
les plus...
Moi, je veux bien m'engager avec toi aussi sur ça.
Ah ouais, non, mais c'était... Alors, ça a fait rire les gens parce que je pense que la thématique est tellement ridicule que...
L'animateur était au taquet, quoi. Donc, tu rigoles bien autour de la table aussi avec ça.
Habillé en écossais, avec le tilt...
La moustache, la mexicaine, comme on verrait dans les vieux films... Là.
Ouais, ouais, mais j'ai vraiment eu l'impression, en vous observant jouer, parce que je pense que vous étiez 6 autour de la table à jouer. Peu d'entre vous ont trouvé l'amour, d'ailleurs. Je tiens à le répéter.
Il n'est pas facile à trouver, en même temps, dans son jeu.
Je pense que la dynamique de groupe a fait que vous étiez tellement tous atterrés que ça vous a beaucoup fait rire.
C'est le rire dédramatisant. Je voulais pas y jouer, puis voilà, tu passes à côté de la table, t'as les autres, allez, viens, c'est bon, on va se marrer deux minutes, quoi.
On lance les dés trois fois, puis on se casse.
Expliquons quand même, effectivement, il y a 6 dés, je crois, et en fait, on va les lancer 3 fois, donc comme Yams, mais un seul coup de Yams, quoi.
C'est ça,
effectivement, au niveau de game design derrière, il n'y a que dalle, il n'y a rien du tout, quoi.
Pas trop d'intérêt, quoi.
Ils ont fait
un effort sur les illustrations quand même.
Ouais.
Avec les cœurs qui deviennent des bites, non,
oui.
C'est ça.
Oui, non.
Non. Puis, il y a des vrais cœurs sur les dés, hein. Mais par contre, sur d'autres faces, tu vas retrouver des couilles et des glands, quoi.
Je suis désolée, mais j'y ai pas joué.
On finit les débriefs,
qu'on laisse ça dans notre débrief.
On le bipera. On trouve des bips et des bips.
Je suis voilà.
Proxy jeu version américaine. Non, mais...
Ah bah alors effectivement il y a Thomas Varchex qui est passé à ce moment-là.
Oui.
Et alors, du coup je lui ai fait la démo de c'est pas moi qui ai fait la démo au début hein, c'est le présentateur du jeu. Hein. Il y a quand même un truc avec la boîte où effectivement ils ont sur la boîte il y a des cœurs dessinés et en fait sur la jonction entre le couvercle de la boîte et le côté de la boîte il y a une encoche qui fait que donc ça dessine un cœur entre le couvercle et l'encoche donc la boîte du dessous. En fait, quand on commence à soulever le couvercle, bah en fait le cœur transforme en vous aurez compris.
Et là, c'est la tristesse.
Voilà. Et bon, bref, du coup, je montrais à Thomas Varchex ce stratagème graphique qui a été trouvé. Peut-être que bientôt on trouvera.
Moi, j'imagine
des
très bien un Twin It version jeu d'aujourd'hui.
Ah
hein, parce
non,
que.
Non, non.
Mais t'imagines après Cannes Croisette.
Non,
mais franchement, c'était.
Atterrant.
Ouais, c'était atterrant. Je pense que le mot est juste. Ouais.
Mais, et donc, ça va être édité, ça ? Vraiment ?
A priori.
J'en sais rien, je sais pas.
On verra.
Ça se pourrait, ça se pourrait bien. Ça ressemblait à un truc. C'était pas un Kickstarter, je sais pas quoi. Il y avait pas une histoire comme ça. C'était sorti aux États-Unis ou. Enfin,
bref. Bah, j'ai l'impression, oui, c'était. En tout cas, il y a une entrée sur Board Game Geek. Donc, alors j'ai oublié le nom du jeu. Je pense que c'était Shlongo. Oui, le King Size était le nom.
Le nom de l'éditeur.
C'est
Shlongo.
Celui qui avait marqué sur la boîte là, c'était Coronès.
Ah oui, donc parce qu'en fait ils sont multilingues. C'est ça qui est beau. Ils font un travail de localisation sur les noms, sur les titres.
Non, mais en fait c'est atterrant jusqu'au nom de l'éditeur quoi. Tout voilà, c'est too much on va dire.
Voilà, c'était le what the fuck de Cannes.
Ouais, c'est
tout off hein, quand même, hein, on précise.
Oui.
C'est peut-être pas plus mal.
Mais on voit des jeux dans ce style-là, on envoie Essen dans le salon quand même. Faut quand même
Ah bah le célèbre Busen Memo dont tout le monde parle. Hein, je veux dire, c'est, qu'on trouve d'ailleurs assez facilement au Japon au passage.
D'accord.
Je pense qu'il y a des fans, je sais pas, mais l'Allemagne des années 80 version érotique, ça plaît aux gens apparemment au Japon.
Aïe, voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on va clore cet épisode sur cette note what the fuck mais qui nous aura quand même fait rigoler, bien le dire. Faut bien l'avouer. Et bien on va remercier à nouveau l'organisation du Festival des Jeux de Cannes de nous avoir permis d'être ici, d'avoir ce dispositif, d'avoir ce stand qui nous ont offert un titre gracieux. On remercie tout particulièrement Nadine Zoll qui a été notre contact, notre point d'entrée au tout départ, hein, qui a accédé à notre requête et qui nous a dit effectivement nous suivre et que qui nous a demandé qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour nous aider et nous permettre de couvrir le festival. Donc on la remercie encore grandement. On remercie également énormément nos tipeurs parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a pu défrayer partiellement les gens qui sont venus réaliser les interviews.
Merci
beaucoup.
Merci les tipeurs.
Merci beaucoup. Oui.
Surtout pour Iso. Hein.
Ah oui, non, même ça m'a vraiment fait plaisir. Quoi. Et puis je peux vous dire que voyager en business, c'est autre chose.
Non, en fait, on a défrayé que l'hôtel.
Que Iso, surtout. Défrayé que Iso.
Voilà, chères auditrices et chers auditeurs, si ce débrief vous a plu et si n'importe quel autre format de Proxy Jeux vous plaît, hein, on le rappelle, il y a une chose à faire, hein, c'est partager ce que vous écoutez et puis vous rendre sur la page Tipeee de Proxy Jeux. On se retrouve très vite, c'est le dernier débrief, mais il y aura toutes les interviews à venir, on va reprendre aussi tous les formats classiques et on vous dit donc à bientôt et puis surtout,
jouez bien.